radio. Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le banditisme urbain ou le phénomène Kuluna. Comment se déroule l'opération Ndobo? Voilà une nouvelle opération lancée dernièrement par le ministre de l'Intérieur pour traquer, pour arrêter, juger, déférer devant les instances judiciaires et condamner en flagrance tous ces Kuluna. Comment se déroule cette opération? Eh bien, on en parle dans cette émission avec le professeur Adélard Kwanzaka, qui est sociologue, et on aura également le ministre, le vice premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui nous en dira un peu plus par rapport à cette opération. Vous voulez participer à cette émission? Le standard est ouvert. Composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de la lutte contre le non-respect des tarifications du transport en commun à Kinshasa. Depuis un moment, le phénomène des mi-terrains a repris dans la ville de Kinshasa, et les prix des transports en commun a connu une hausse sans raison. Eh bien, nous allons en savoir plus avec nos invités au cours de cette émission. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez les 099 706 99 41. Dieudonné Nyangassa sur la mise en onde. Tati Mapoukou réalise cette émission. Jody Daniel au micro. Bienvenue à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission, dans ce magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa, ainsi que dans d'autres villes à travers le pays. Vous savez, le ministre de l'Intérieur a lancé le 6 décembre dernier l'opération des traques des bandits urbains, appelée Kuluna. Et l'opération est intitulée Ndobo, l'opération Ndobo, qui veut dire tout simplement « Amesson ». C'était à l'issue d'une réunion d'évaluation des opérations de la police contre le banditisme urbain et contre les embouteillages à Kinshasa. Et selon nos sources, l'opération Ndobo vise à traquer et à maîtriser les Kuluna qui sèment la désolation dans les différents quartiers à travers la ville, afin de les déférer devant les instances judiciaires pour être jugés et condamnés en flagrance au cours des audiences foraines qui seront organisées régulièrement conformément aux instructions du chef de l'État. Alors, comment se déroule cette opération? Voilà, une énième opération contre le phénomène Kuluna. Qu'est-ce qui garantit la réussite de cette énième opération? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien avec le professeur Adélard Kwanzaka, sociologue. Professeur Adélard, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le président.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons
aujourd'hui.
Nous parlons du phénomène Kuluna.
On parle aujourd'hui
d'une autre opération qui est dénommée opération Dobo. Voilà, ce n'est pas la première. Il y a toujours des opérations comme ça qui se succèdent. Alors, comment expliquez-vous en tant que sociologue ces phénomènes Kuluna? Quelles sont les causes profondes à la base de ces phénomènes récurrents?
Merci beaucoup. Je crois que on a déjà eu à débattre de ce phénomène Kuluna. Les causes à la base de ce phénomène sont nombreuses. Il y a l'érosion de l'autorité parentale, il y a le chômage des jeunes, il y a le délaissement pratiquement de l'État, il y a le fait que le ministère des Affaires sociales qui jadis s'occupait de ces jeunes, notamment les jeunes désœuvrés. Ce ministère a été pratiquement, je ne sais pas s'il existe en nomenclature, comme je m'intéresse pas trop, mais ce ministère-là jouait un rôle important. Mais aujourd'hui, avec le délaissement en quelque sorte de ce ministère, les attributions de jeunes, il y a le ministère de la Jeunesse, je ne connais pas ces attributions, mais le ministère des Affaires sociales avait tout un plan pour s'occuper de jeunes désœuvrés, les prendre en charge à partir des enfants non accompagnés jusqu'à la réinsertion sociale. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Et voilà, il y a la recrudescence de ce phénomène. Ça, c'est des causes, je crois, administratives, mais la cause, il y a une des causes sociales, c'est l'érosion de l'autorité parentale qui fait qu'aujourd'hui, les parents sont abandonnés pratiquement du point de vue des allocations sociales, du point de vue de l'assistance de l'État et du pouvoir public envers eux pour prendre en charge leurs enfants. C'est quelques-unes des causes.
Bien, vous avez parlé de l'érosion de l'autorité parentale, le chômage des jeunes, les délaissements de l'État. Ces jeunes ne sont pas occupés. Bon, voilà, ils se retrouvent, ils deviennent des Kuluna. Mais comment on n'arrive pas à venir à bout de ce phénomène, professeur? Il y a toujours plusieurs opérations qui se succèdent, mais le phénomène persiste toujours.
Moi, je crois qu'il y a, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de volonté de l'État. Plus de volonté de l'État, c'est-à-dire, il faut intégrer plusieurs intelligences. Parce que la répression seule ne suffit pas. Parce que l'approche répressive, n'a jamais donné de solution depuis, plusieurs années. Et il faut chercher aussi, parmi les causes immédiates, hein, que j'ai oublié, c'est l'instrumentalisation des partis politiques. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a des gens, des jeunes gens ici, qu'on a même vu à travers les chaînes internationales, et qui menaçaient des gens qui venaient perturber tel parti politique. Soit on a oublié ce phénomène-là. Il y a l'éducation civique aussi. Donc, les partis politiques devraient éduquer leurs jeunes militants pour éviter que ceux-ci soient instrumentalisés par. Alors, pour en revenir aux différentes opérations, je disais que c'est souvent des opérations policières, et ça se limite là. Pourtant, on doit saisir le taureau par des cornes. C'est-à-dire, il faut commencer par une approche préventive, faire en sorte que les enfants ne deviennent pas des Kuluna. C'est-à-dire, la prise en charge, la scolarisation des enfants, la prise en charge des enfants qui ont raté la scolarité par des formations professionnelles, et la formation professionnelle qui devrait aboutir à la réinsertion sociale, c'est le travail que le ministère des Affaires sociales faisait. Et c'était dans cette attribution. Donc, je répète, l'opération, l'approche répressive ne suffit pas. Il faut l'approche préventive, il faut l'approche curative, c'est-à-dire des enfants qui ont été récupérés dans le centre de de formation professionnelle et de là, de réinsérer dans la société dans leur pouvoir de travail. Je crois que c'est pas qu'il ne faut pas seulement privilégier
Voilà, donc voilà, les professeurs étaient en train d'évoquer quelques solutions à apporter par rapport à ce phénomène Kuluna qui est récurrent. Il faut beaucoup plus de volonté politique, d'engagement pour en finir avec ce phénomène voilà, qui sème la désolation dans les quartiers populaires à Kinshasa. Ces jeunes gens sont armés des machettes et d'autres armes blanches en train d'inquiéter les paisibles citoyens aux heures tardives. Mais parfois même pendant la journée, ils vous attaquent, ils vous dépouillent de tout ce que vous avez, téléphone, l'argent, et si vous essayez de résister, c'est moins de résistance, vous pouvez recevoir un coup de machette. On va accueillir les auditeurs. Justin Koulou nous appelle de Fongourmé. Eminem Mwanda est à Bukavu. Alors, ils vont nous dire si également à Fongourmé et à Bukavu, les phénomènes Kuluna existent toujours et qu'est-ce qui est fait localement pour en finir avec cette criminalité, ces phénomènes. On commence avec Justin Koulou depuis Fongourmé. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou, et bon retour. Et monsieur Jody Daniel Kachama, bon retour.
Merci,
et
Justin.
Bonjour à nos deux invités qui sont aujourd'hui associés au débat. J'ai retenu deux grandes questions à votre exposé du sujet d'aujourd'hui. Mmh. La première, comment se déroule l'opération sur terrain d'Ndobo? Parce que dans notre dialecte, on l'appelle Ndobani. Ou soit Boulowo en Kilouba.
Okay.
Deuxièmement, il y a comment lutter efficacement contre les criminalités. Fongourmé, j'espère que c'est le premier site là où la criminalité a pris l'ascenseur. Mais c'est jeudi avec nos invités. Tant que les services de sécurité restent les appareils de génération de recettes, en tout cas, rien ne changera dans notre pays. Puisque tous ceux qui se trouvent en prison, ce ne sont pas ces gens qui ont fait vraiment des fautes très graves. C'est puisqu'ils n'ont pas l'argent. Là, je me répète même. Et si nous essayons de voir, on a déjà initié des méthodes pareilles. Je ne décourage pas notre ministre des Affaires intérieures et qui est chargé et qui est le maître et l'initiateur de cette proposition.
Oui,
je voulais l'encourager.
Oui. Dites-nous là-bas, Fongourou, mais est-ce que ce phénomène Kuluna existe là-bas?
Et ça dépasse même Kinshasa, monsieur Jody. Ça dépasse même Kinshasa, puisque c'est chaque jour là on compte le ménage visité la nuit, et même sans toutefois voir même le service de sécurité, essayer d'inquiéter ces gens ou soit se bagarrer avec eux. Parce que quand tu quittes là où tu rentres la nuit, dans des heures tardives, tu tombes dans les filets des patrouillers. Quand tu cherches à amener votre enfant à l'hôpital, la nuit, dans des heures tardives, tu comptes dans les filets des patrouillers. Mais je ne sais pas comment ce banditisme, le bandit-là, ne tombe pas dans les filets des patrouillers. On se pose ces questions là-bas.
Vous voulez dire par là qu'il peut y avoir une complicité entre ces Kuluna et les forces de sécurité?
Non, j'ai eu déjà à les suivre en privé et quelques raisons qu'ils évoquent que je ne peux pas citer à l'émission comme ça, puisque les bandits aussi sont en train de suivre l'émission. On risque de les nourrir encore l'effort. Si notre ministre qui est en train de nous suivre, moi je suis Justin Koulou. Je suis reconnu par lui à travers Sylvain Moukadi et Patrick Kaléou. Les deux gens-là que je citais, monsieur le ministre des Affaires intérieures les connaissent très bien. Je suis en train aussi de m'impliquer. Comment? J'ai demandé les audiences plusieurs fois. Je n'ai jamais été reçu pour donner
les audiences. Bon, les audiences, ça, on va en parler après. Mais quelle est la solution prise par les autorités au niveau local pour lutter contre les Kuluna à Fongourmé?
Je ne les haïs pas, rien. Il y a rien. Puisque je n'ai jamais entendu l'échange de coups de Turcs. Non, ce sont les bandits qui se sont rencontrés avec les policiers qui étaient en patrouille. On les a appelés, ils ont commencé à échanger les coups. C'est impossible. On nous appelle, monsieur, et je dis avant de terminer, on nous appelle d'aller dénoncer. C'est bien sûr d'aller dénoncer que autour de moi il y a un bandit, il y a celui qui entre toujours dans sa maison la nuit. Mais Nous sommes sans ignorer que il y a même les civils qui n'osent même pas de traverser la cour des policiers ou soit des lanins ou soit des militaires, on n'en parle même pas.
Merci
et
beaucoup,
comment
Justin.
Celui-là
D'accord.
prendra le courage oui. d'aller se présenter et dénoncer.
Merci Donc beaucoup. Merci Justin. Les... On va donner la parole à Éminent Mwanda de Bukavu. Bonjour Éminent.
Bonjour Jody, bonjour à Tati Mapoukou, bonjour à tous les invités de Radio Kapi et à tous les auteurs de la Radio Kapi.
Est-ce que la ville de Bukavu également est confrontée à ce problème de Kuluna? On connaît aussi ce problème de Kuluna.
Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir associé à ce débat si important. Parlant de phénomène Kuluna, qu'on appelle ici chez nous Maibobo, c'est ici où vraiment on peut dire que c'est l'origine de ce phénomène. Mais à ce dernier temps, nous avons grâce parce que nous avons un ministre provincial de l'intérieur, l'honorable Famaïk, qui est en train de maîtriser un peu la situation. Parce que ces gens là-bas, je crois même aux environs. Moi, j'étais à maintes fois victime de ce Maibob ou de ces coups ici à Bukavu, mais avec son arrivée. Au moins quelques réductions de ces cas là-bas. Parce qu'actuellement, je pense que à Moudak, à quelques kilomètres de Bukavu, là où vraiment le banditisme avait commencé à prendre de l'envergure. Mais quand il est là, quand il passe seulement dans des quartiers, il identifie tout ce qui est trait avec le banditisme. Donc, si vous avez déjà tué, il va vous identifier, vous prendre.
D'accord, Éminent, d'après vous, quelles sont les solutions pour en venir à bout de ce phénomène Kuluna qui inquiète pas mal les gens?
Selon moi, parce que je sais très bien que dans ces phénomènes.
Allô? Désolé, on l'a perdu.
Du service.
Ah, il est là. Oui. Alors, quelle est la solution d'après vous?
La première solution, c'est de donner d'abord les numéros verts pour dénoncer ou soit alerter en cas de menace ou soit de présence de ces gens là-bas. Ça, c'est un. Selon moi, il faut d'abord qu'il y ait des numéros verts des autorités qui peuvent se disponibiliser à tout cas ou à tout moment.
D'accord. À part les numéros verts, quelle autre solution?
À part ça, il y a aussi il faut la prise en charge de la population concernée, parce que c'est nous qui sommes vraiment victimes. Il faut que la population aussi se mette en synergie pour dénoncer les suspects, parce que ce sont les jeunes, beaucoup plus ce sont les jeunes déservés. Et troisièmement, selon moi, il faut supprimer le débit des boissons, parce qu'avec des maisonnettes, partout il y a déjà des maisonnettes, et c'est là que ces gens d'abord s'abritent. Après un certain temps, ils identifient les cibles et ils vous poursuivent. Il faut supprimer toutes ces maisons là-bas. Et je crois qu'avec ça, nous pouvons éradiquer à 80-90% à ces phénomènes-là, Kuluna.
Merci beaucoup, Janon Louemboué. Vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis merci de m'associer à ce débat radiophonique.
Alors, Janon, d'après vous, quelle est la solution pour en finir avec le phénomène Kuluna?
Oui, permettez-moi d'abord de placer un mot là-dessus. C'est moi que vous avez changé. Vous avez parlé de tout le pays parce que c'est un problème qui fait tache d'huile. À Kinshasa, ce sont les Kuluna, on les appelle Kuluna, à Lubumbashi, c'est pas là-bas, on les appelle, je sais pas, Gabonton, Tchégué, donc chaque, selon les provinces.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ici ou là-bas? Il y a un système où on appelle, Kléboa. Je vais vous expliquer cela. Parce que c'est vraiment, ça a pris de l'ampleur.
Kléboa.
On se tape dans la nuit. Ouais, on vous attrape dans la nuit, on vous met la main autour du cou et on pince jusqu'à ce que vous mouriez. Si vous avez la chance, vous allez vous évanouir avant et on prend tout ce qui est dans la poche. Plus vous résistez, plus la personne va, je sais pas s'ils sont, ils ont touché au fétiche, je sais pas. Plus la personne va résister jusqu'à ce que vous allez ne plus bouger. Et les gens meurent comme ça. C'est connu ici, chez nous. Ça, c'est ce qu'ils font ça. Les enfants qui ont grandi dans la rue. Depuis des années, selon les générations, bien sûr. Donc, nous sommes envahis par deux catégories de personnes qui créent l'insécurité. Les bandits dans la nuit, ceux qui ont des armes, et la journée, aussi dans la nuit, ces enfants-là. Vous comprenez ça? nous sommes envahis de ça, comme je l'ai dit, c'est de l'insécurité partout dans le pays. Mais parlant de Kinshasa, permettez-moi, j'ai comme l'impression que c'est cet autre réveil qui n'est pas la, le premier, c'est après la mort de cette journaliste de Kinshasa. C'est après sa mort que les autorités se sont mis, voilà, à faire cette sensibilisation. Ici ou là-bas, je pense aussi qu'il y a des autorités qui fournissent les efforts. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a insécurité la nuit, les gens à main armée et la journée par les enfants de la rue, que les autorités n'ont pas la volonté. Ils ont de la volonté.
Mais est-ce que là-bas, Jeannot, est-ce qu'à Kolwezi, ces jeunes Kulunas sont armés des armes blanches, la machette et autres? Ils ont des machettes.
Ouais, armes blanches, machettes, et tout ce que vous voulez là, pour neutraliser, pour être sûr de neutraliser la victime et de dépouiller tout. Et vous allez voir, tout ce qui tourne autour de ça, c'est l'argent. La Bible nous dit, c'est le racine de tous les maux. Maux comme douleur, maux comme tout ce que nous connaissons, comme souffrance.
Et quelle est la solution, d'après vous? Quelle est la solution, rapidement?
Que bon, on a, il y a le phénomène, comment on appelle ça, service social, c'est où ça, où on les amène en tenue bleue là,
à Kanyama KCC, pour aller cultiver
le maïs. Kanyama KCC ne donne presque pas solution. Pourquoi? Parce que plus on les amène là-bas, plus ces gens remplissent les villes. Je sais pas d'où ils viennent. Ça, je ne sais pas. Ils s'échappent des prisons, ils reviennent en ville s'enfuyant des Kanyama KCC, je ne sais pas. La solution, moi, je pense que c'est vrai que nous voyons les autorités en mouvement pour pouvoir trouver solution, mais je pense qu'il faudrait ouvrir peut-être les centres de rééducation avec des petits frais, des payes, des motivations. On peut faire, je ne sais pas, on vous crée un centre de rééducation, on va vous apprendre... je sais pas, à être menuisier, mécanicien, consort, mais on vous donne quelques motivations, quelques sommes d'argent pour vous aider à vous encourager à rester dans la chose. Parce qu'on a essayé depuis des années de trouver des solutions, à créer des centres de formation. Ces enfants échappent des centres là, au Bazan, Nzala, tout ce que vous connaissez là. Mais si on crée un centre, des centres partout dans le pays, où on va commencer à donner à ces gens-là une somme d'argent par, je sais pas, mois, par semaine, pour leur aider à pouvoir vraiment s'organiser dans ce sens-là, parce que ou sinon ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un phénomène qui fait tache d'huile dans tous les pays.
D'accord.
Vous pleurnichez à Kinshasa, on pleurniche ici ou là-bas, et voilà.
Bien, merci. Mais c'était pour cela aujourd'hui, on pense aux solutions. Alors, on va accueillir Elvis de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Elvis, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec le phénomène Kulunas?
Oui. D'abord, je vous souhaite d'abord un bon retour. Et je voulais parler sur ce sujet, parce qu'ici à Kinshasa, je ne sais pas s'il y a une commune qui peut se dire qu'il n'y a pas ce phénomène. Là, je vais d'abord relever d'abord ce qui s'est fait ici. Peut-être, c'est négatif. Vous allez voir que ces gens se battent seulement en rang public. C'est-à-dire, là où il y a même, vous allez voir que même la police est à côté. Mais ils se battent ici. Et ce qui est un peu déplorable, quoi. La police vient seulement arrêter seulement les innocents. Vous allez voir qu'ils viennent après seulement, justement, les innocents seulement, ce sont eux qui viendront arrêter. Mais on ne sait pas. Si vous arrivez ici, si vous arrivez peut-être, vous sortez à l'arrêt, vous allez trouver des jeunes qui sont là. Peut-être les solutions que je peux proposer pour moi, d'abord, je voulais parler des solutions, parce que tu vas demander sur les solutions. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, comme celui qui vient de parler, de créer même des emplois? Vous allez voir ici à l'arrêt, vous allez trouver une sorte de receveur. C'est-à-dire, ils sont de crier pour gagner 200, 300. C'est parce qu'ils ont besoin d'emploi. S'ils avaient des terrains où ils peuvent même être des journaliers, même si au limité ici, il y a des travaux avec les sociétés, les Indiens, là où il y a du journalisme, où vous travaillez, vous payez à la fin de la journée 6 000 ou 7 000 fois. La majorité, ce sont des professeurs. Moi aussi, j'ai travaillé là-bas, mais les exigences qui sont là-bas, c'est compliqué. Même que vous ne pouvez pas vous reposer, vous ne pouvez pas. Parce que tu travailles pour une journée 6 000 fois, vous travaillez de 5h à 18h. Si vous trouvez même que tu es en train de te reposer, c'est compliqué. Est-ce que le gouvernement n'a pas cette volonté même de créer même des petites choses même, je n'ai pas dit même de l'aide humanitaire où on appelle les gens qui venaient recevoir 5 000 par semaine. Pas ça, mais même des sociétés peut-être des vers Maloukou là-bas, vers Télé, où on peut trouver même un terrain où on dit, on cultive, vous travaillez 5 mètres, on vous donne ça. Même avec, je vois ici avec ce qui se fait actuellement avec pour mettre la propriété
Voilà, merci Elvis. Merci, on a compris votre préoccupation. Et ce qui est important, c'est d'occuper ces jeunes gens parce qu'ils sont, ils sont désœuvrés, ils travaillent pas et voilà, donc ils s'adonnent au banditisme urbain, etc. Alors, c'est, d'après vous, il est important de les occuper et voilà, de les payer et puis voilà, cela va réduire ces phénomènes. Madame Claudia, vous êtes à Colésie, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs.
D'après vous, comment lutter efficacement contre les Kuluna, les phénomènes Kuluna?
Oh, Monsieur Jody, la solution implique plusieurs dimensions, elle est multidimensionnelle. Mmh. Il faut promouvoir contre le chômage et aussi il faut planifier les naissances, bien sûr, parce que l'État doit aussi veiller à contrôler et limiter les naissances. On ne peut pas laisser les gens se reproduire comme ça et les parents ne sont pas conscients qu'ils doivent instruire et éduquer leurs enfants. Oui, je disais qu'il faut prendre vraiment des mesures urgentes parce que le phénomène ne fait que s'intensifier et prendre de l'ampleur. Mmh. On dit qu'on bat le fer tant qu'il est chaud. On ne peut pas attendre qu'on atteigne un très haut degré de criminalité pour pouvoir agir. Cela risquerait d'engager beaucoup de moyens et d'efforts. Le phénomène ne fait que s'étaler. Et aussi, puisque cela persiste, cela a beaucoup d'années, comme ça la population crie, mais on ne voit pas vraiment, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment l'État s'impliquer. Alors, si on ne prend pas des mesures urgentes pour endiguer la situation aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous allons devenir dans 5 ans, parce que les enfants qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui, et demain ils vont devenir qui? On ne peut pas attendre qu'on connaisse des crimes violents tel que ce fut le cas avec les villes de Chicago ou Soweto dans les années 90 pour pouvoir chercher vraiment à agir. Là, ça sera d'être un peu trop tard. C'est un peu ce que j'ai voulu ajouter comme rapport. Merci.
D'accord. Merci, Madame Claudia. Professeur Adelard, vous avez suivi toutes les propositions, les suggestions des auditeurs pour en finir avec le phénomène Kuluna. Quel est votre avis, réaction par rapport à tout cela?
Alors, j'ai retenu quelques solutions proposées. La plupart des auditeurs sont revenus sur les emplois, sur l'occupation des jeunes. Je crois que, comme je disais au début, c'est le travail que faisait le ministère des Affaires sociales dans ses attributions. Enfin, il faut quand même qu'on connaisse l'histoire du pays. Hein, on n'oublie pas l'histoire. Le ministère des Affaires sociales qui était délaissé, de récupérer des jeunes dans la rue, des jeunes non accompagnés, et qu'on internait dans un centre social, c'est ça qu'on appelle Singavoie, et 48 heures après, si les parents ne venaient pas les récupérer, on les envoyait en formation dans le Congo central pendant 2-3 ans, et après, ils en sortaient avec un métier, et on les équipait. Ils étaient autonomisés. C'est comme ça que on a connu très peu de cas de pareilles histoires pendant l'époque coloniale et pendant une bonne partie de la Première République. Il y a ce qu'on a appelé le CPS, c'est-à-dire le Centre de Promotion Sociale. Ce sont des centres où ces jeunes gens-là recrutés étaient formés. Ce sont ces centres-là qui les équipaient pour qu'ils aillent avoir du travail. Chez l'auditeur de Kangourou, mais qui a parlé de la police, effectivement, il y a des dérapages. Hein. Quand on vient arrêter des Kuluna qui font le rando. Les randos, c'est des manifestations que le Kuluna mène pour aller attaquer une autre bande de Kuluna ou bien pour aller attaquer des quartiers. Donc, il y a des dérapages. Parfois, ce sont des innocents qui sont arrêtés. C'est pas très intéressant. Une autre proposition qu'il a formulée, c'est la fermeture des débits de boissons. Ça, c'est quand même curieux de constater. Je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur. Je ne comprends pas. Moi, j'ai grandi dans la ville de Kinshasa. Je ne comprends pas comment, maintenant, c'est comme s'il y a une autorisation tacite de vente de l'alcool frelaté. On le voit dans tous les coins de rue, même les chambres, etc. Donc ça, c'est quoi? Il faut interdire la vente publique d'alcool frelaté, comme je le vois partout, en vente libre. Et le dérapage, c'est aussi le fait que, lié à la formation même de la police, il faudra qu'il y ait une police bien formée, professionnelle, etc. Il y en a qui soupçonnent, bon, je n'ai pas de précision là-dessus, mais il y en a qui estiment que, bon, la police, parfois, qu'il y aurait, parce que je parle bien au fonctionnel, comme si j'étais entre la police et les colonnes, hein, parce qu'il y aurait, semble-t-il, des anciens colonnes. Hein. Et cela, dans la police, ça, j'insiste, hein, je dis bien, il y aurait. Raison pour laquelle il faut vraiment que la police soit formée.
Il y aurait, des colonnes même au sein de la police.
Bon, des anciens colonnes, dit-on. C'est pour cela que j'insiste sur la formation professionnelle, la formation qui est une police vraiment professionnelle qui puisse avoir toutes les compétences en matière juridique, en matière technique, etc. pour éviter les dérapages. Alors, il y a la dernière proposition de Madame de Colésie parmi les propositions qu'elle a formulées, elle parle de contrôle des naissances. Mais ça, c'est tout un débat qui peut se faire autour du contrôle des naissances. Je crois qu'on peut bien contrôler les naissances, mais tant que les parents n'ont pas la possibilité de prendre en charge leurs enfants, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, mais si vous n'avez pas la possibilité de les prendre en charge, de les scolariser, de leur trouver du travail, de leur trouver à manger, à se loger convenablement, ça ne servira à rien, donc... le contrôle de naissance là ne servira absolument à rien donc. Voilà, c'est la rééducation, j'en ai déjà parlé, c'est à travers les CPS, centres de promotion sociale. Si on peut restaurer et si on peut réhabiliter, ramener le ministère des Affaires sociales parmi les ministères de priorité, quoi que les choses peuvent mieux marcher. Parce que le problème ne concerne pas seulement le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice, c'est le problème du gouvernement, de tout le gouvernement qui doit s'engager pour que ces phénomènes ne soient pris à bras le corps par ce gouvernement et en faire une priorité des priorités. Donc, le ministère des Affaires sociales seul ne suffit pas parce que ce ministère peut prendre des décisions qui est les autres ministères, les autres. Okay. Ça risque d'être donc pas très efficace. Voilà ce que je peux dire en rapport avec les interventions des auditeurs.
D'accord. Nous parlons aujourd'hui du phénomène Dobo, de l'opération Dobo, qui veut dire hameçon, opération lancée dernièrement par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre le phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa et à travers le pays. Alors, il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu, par exemple, l'opération Likofi en 2013. Et puis, les Kuluna et d'autres sont arrêtés et envoyés à Kanyama-Kasese pour aller vers le service national. Alors, et maintenant, on parle du phénomène Dobo. Il y en a eu plusieurs. Alors, qu'est-ce que cela a donné? Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, l'opération Dobo va apporter des fruits satisfaisants? Des questions et préoccupations. Le standard est ouvert. Composez les 099-706-9941.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Lutte contre le phénomène Kuluna, le gouvernement vient de lancer l'opération Ndobo, opération Ndobo depuis le 6 décembre dernier. Ndobo qui veut dire hameçon, voilà, pour qui vise à traquer, à maîtriser les Kulun, à les arrêter, les déférer devant les instances judiciaires, les condamner en flagrance. Au cours des audiences foraines qui seront organisées voilà, à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays, parce que de plus en plus ces jeunes gens inquiètent les paisibles citoyens. Il y a des attaques à la machette, ils blessent certains, ils arrivent même à tuer ou à prendre tous les objets de valeur, téléphone, et l'argent et autres. Alors qu'est-ce qu'il faut pour lutter? Quelles sont les chances, voilà, pour que ces phénomènes d'obo puissent apporter des bons résultats? Maître Gaston Gandou, vous êtes à Kinshasa et Justin Kalabia est à Bounia. Nous attendons tout à l'heure, nous allons recevoir le ministre de l'Intérieur pour en savoir un peu plus sur les mesures prises, les mesures d'encadrement pour assurer une réussite totale de cette opération dénommée Ndobo. Maître Gaston Gandou de Kinshasa, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Jody. Bon, je dois vous parler des Kulun en cravate ou les Kulun en millénaire qu'on a tendance à traquer.
Ben, nous parlons des Kulun ouais. Qui prennent la machette et qui blessent les gens et qui arrachent les téléphones, l'argent et autres dans les différents quartiers.
Oui, mais c'est comme si vous avez oublié les Kulun en cravate qui, de toute manière, nous savons que c'est vraiment aussi un phénomène à éradiquer cet aspect-là. Mais, concernant les Kulun en, que nous appelons communément les gangs ici, les gangs ou sorte de Kuluna. Moi, je pense que le problème est qu'on n'arrête pas ces vrais Kuluna là. Ces bandits là que je peux même qualifier de bandits, hein, des bandits mineurs dans les cas d'espèce, où les voleurs armés mais ne sont pas arrêtés. Dans la plupart des cas, lorsqu'ils opèrent, ils échappent à la police. Et pourtant, ils sont connus. Ces gens-là sont connus dans nos quartiers. Mais vous verrez après une opération quelconque, vous les verrez encore sillonner des trucs comme ça et pourtant ils sont en train de malmener les peuples, hein. Comme l'autre a dit là, ils sont même en train de les tuer, hein. Même pour rien ils te tuent comme ça, hein. Dans la plupart des cas ils viennent, à part ceux qui se comportent comme des natifs de nos différents quartiers qui ont raté l'éducation de base, qui sont dans la plupart des cas sortis de familles démunies. Il y a certains là que je qualifie moi ici de bandits, ou soit de voleurs à main armée, qui opèrent des fois la nuit, surtout la nuit. Et lorsqu'ils vous voient, il n'y a pas de pitié. Leur première mission, c'est vous dépouiller de tout ce que vous avez passé. Je pense aussi que c'est la famine ou le chômage qui les amène sur ces chemins-là, mais lorsqu'ils vous attrapent, c'est soit la mort, soit des blessures, même si vous n'avez rien.
Oui, mais maintenant c'est quoi la solution? Quelles chances vous donnez? Quelles sont les chances que vous donnez à l'opération Ndobo lancée récemment par le ministre de l'Intérieur?
Bon, vous savez, cette opération, d'abord, je n'appelle pas ça par son nom là, je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est comme toutes les autres opérations passées, ça doit plus s'appuyer sur la police nationale, comme il s'agit ici du ministère de l'Intérieur. Moi, je pouvais aussi parler comme il s'agit des fois de gangs, hein. Il faut aussi que la sécurité, c'est la sécurité, défense et sécurité puisse s'en occuper aussi. Il faut déployer même le militaire pour traquer ces gens-là, faut les faire. Mais moi, je dirais que on constate que la police n'est pas professionnelle, hein. Le vrai problème aussi, c'est cela. Nous avons une police ou une armée qui n'est pas professionnelle et qui n'est même pas visible partout. Hein, dans la plupart, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, ces effectifs-là arrivent en retard, l'opération est déjà faite. Et même.
Allô? Allô, Maître Gaston? Désolé, il n'est plus en ligne. On va accueillir Justin Kalabia depuis Bounia. Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bon retour à l'antenne.
Merci Justin. Quelle est d'après vous, quelles sont les chances de réussite que vous donnez à l'opération Ndobo contre les Kuluna?
Merci Monsieur Jody pour la thématique. Oui, cette opération Ndobo, en tout cas, cette initiative est très courageuse.
Allô?
Certes, nous demandons que l'État
Désolé, hein, là, la communication n'est pas du tout bonne, Justin. Je vais vous demander peut-être de bouger, d'échanger de position. Peut-être que ça peut améliorer les choses. Nous parlons du phénomène Kuluna. Voilà, le gouvernement vient de lancer depuis le 6 décembre une opération des traques de ces bandits urbains appelés Kuluna. Et l'opération est dénommée Ndobo, qui veut dire l'hameçon, Ndobo, voilà. Et cette opération vise c'est pour les traquer, les maîtriser, les déférer devant les instances judiciaires. Et puis ben voilà, ils seront jugés, condamnés ou acquittés. Alors qu'est-ce qui garantit la réussite de cette énième opération dénommée Ndobo? Voilà, c'est là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et si tout marche bien, nous aurons le ministre de l'Intérieur tout à l'heure qui nous dira un peu plus par rapport à cette opération. Est-ce que Justin Debounia est toujours en ligne ou on l'a perdu?
Je suis en ligne mais aujourd'hui. Je suis
d'accord.
En ligne. Allez-y. Merci beaucoup. Je disais que le banditisme urbain à travers les villes, la RDC, devient une monnaie courante, particulièrement sur la ville de Goma. Dans ces pays, nous n'avons pas un État. Monsieur, aujourd'hui, ce qui nous est...
Allô? Désolé, la communication n'est pas très bonne. Voilà. Justin Kalabia, voilà, depuis Bounia. On a des soucis par rapport à la communication. Nous parlons du phénomène Kuluna. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui... voilà. Garantit la réussite de cette opération. On va accueillir tout dans quelques instants le représentant du ministre de l'Intérieur qui nous dira un peu plus par rapport à ce qui est fait et à ce qui garantit et qui va garantir la réussite de cette opération et comment elle va se dérouler sur le terrain.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bien, nous avons en ligne Maître Lushima, chargé des suivis des audiences foraines des procès des Kuluna. Il représente le ministre de l'Intérieur. Maître Lushima, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, nous parlons aujourd'hui du phénomène Kuluna et particulièrement de l'opération Ndobo lancée le 6 décembre dernier par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour traquer ces bandits urbains. Alors, dites-nous comment... Concrètement, va se dérouler cette opération et quelles sont les chances que voilà tout qu'est-ce qui est mis en place pour assurer une réussite totale voilà de cette opération de lutte contre le banditisme urbain.
Bon, c'est comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, tout phénomène ne peut être éradiqué que pendant un processus. Hein. C'est pas par bateau magique qu'on peut arrêter un phénomène qui a pris beaucoup de temps dans la ville. Mais il que nous avions quand même eu des séances de travail avec la police qui nous accompagne dans cette œuvre-là, parce qu'il faut le dire que pour qu'on arrive vraiment à des résultats escomptés, il faudrait aussi que la population participe. C'est pour cela que vous avez suivi même dans le discours de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, dire aux parents que vous devez soit vous amener les enfants, vous les garder chez vous, vous les rééduquer, soit lorsqu'ils tombent entre les mains de la police, eh ben la justice prendra en charge ces derniers. Donc le réussite, comme on peut le dire, c'est cette volonté de la population également, à côté de la police, nous pensons que nous pouvons tous réussir au même moment.
Bien, nous pensons réussir au même moment. Alors, on a appris qu'il y aura des audiences foraines des audiences foraines qui seront organisées. Tout ça, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que déjà vous êtes arrivé à mettre la main sur certains Kuluna? Est-ce qu'ils sont déjà en train d'être jugés?
Oui, vous les avez pratiquement vus le samedi. Et la loi donne au moins 48 heures dans le sens que le parquet doit d'abord les identifier. Chose qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui le parquet termine l'identification, ou même la police, effectivement, si la police aura fait toute l'identification depuis le samedi aujourd'hui, Nous pensons que dès demain, déjà, on va le présenter devant le juge compétent, afin que ce dernier puisse dire le droit ou rendre justice.
Voilà. Combien ont été déjà maîtrisés à ces jours?
Bon, l'effectif que nous avions eu jusque samedi à 10h-11h, nous sommes aux environs de 100, une centaine ou 150, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre exact, mais on n'est pas en deçà de 150 déjà, appréhendés.
Et comment vous êtes arrivé à les identifier? Parce qu'ils sont toujours organisés en gang, il y a les chefs d'équipe,
effectivement, etc. Effectivement, c'est là que j'ai dit, hein, c'est une opération, on ne peut pas dévoiler les secrets, sinon ça fuiterait auprès de ces gangs-là. Nous savons qu'il y a des points focaux, il y a de ceux-là qui gèrent leurs petits frères, les enfants ou leur gang. Et c'est comme ça que nous y allons avec, dans la composition même de l'organisation, il y a aussi le service des renseignements qui joue dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas le dire en public, mais les opérations vont continuer, comme nous l'avions dit, parce qu'il y a quand même l'appui du gouvernement qui est là, effectif. Et donc, nous tenons à ce que, comme c'est le vœu du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que l'on éradique ce phénomène, donc on ne va pas seulement s'arrêter à Kinshasa. Donc, nous avons l'appui du chef de l'État. Nous appelons aussi la population, parce que, pour votre information, nous sommes en train d'envisager le lancement de la gouvernance sécuritaire avec l'approche des communautés locales ainsi que provinciales, où la population, en principe, doit prendre en charge sa sécurité. C'est pour cela que nous parlons de l'approche participative, que ce soit de la population, pour que nous puissions tous réussir. Parce que nous sommes tous victimes de ce phénomène-là.
En tout cas, dans les différents quartiers, il y a de plus en plus de plaintes des gens qui sont attaqués à la machette et qui perdent tout ce qu'ils ont et qui peuvent se retrouver avec des blessures, etc. Alors, après ces audiences, après être jugés, quelles sont les différentes sanctions qui sont prévues contre ces Kulouna pour les redresser?
Les sanctions, c'est le juge, hein, mais nous savons déjà que l'association de malfaiteurs, c'est une sanction qui est pénalement punissable, et donc c'est au juge maintenant de dire le droit. Nous, notre rôle, c'est de chercher ces bandits-là et les acheminer auprès des juges compétents. La suite relève maintenant du ministère de la Justice, parce que c'est le ministre de la Justice, il fait aussi partie de la commission, qui est censé prendre en charge le reste de la procédure pour nous éviter à ce que ces bandits ne retournent plus dans la cité.
Bon, est-ce qu'on va encore les envoyer en prison alors qu'on est en train de tout faire pour désengorger nos prisons actuellement qui sont surpeuplées?
Comprenez qu'il n'y a pas que la prison Makala sur toute l'étendue de la ville. Et donc, il y avait aussi une commission qui était chargée de faire la localisation de maisons d'arrêt. Et nous entendons la mise en place de cette décision-là de maison d'arrêt. Mais en attendant, il y a d'autres prisons à travers la République, chose que le ministre de la Justice devra s'y atteler pour permettre à ceux qui aient soit un déplacement. Donc, faut qu'on puisse délocaliser ces prisonniers ou ces délinquants qui seront condamnés après ces audiences foraines ici.
Bien, à un certain moment, l'idée était de les envoyer à Kanyama-Kassissé, par exemple, pour apprendre des services nationaux, pour devenir des bâtisseurs, pour faire les champs, cultiver le maïs et apprendre d'autres métiers. Est-ce que cela est toujours, ce programme est toujours, valable?
En tout cas, le programme, il est toujours d'actualité. Hein. Vous comprenez que c'est une façon de procéder à la réinsertion, parce que dans la procédure pénale également, il n'y a pas que la sanction. Réinsérer dans la société. Donc, parmi les mesures qui seraient envisagées par leurs excellences pour que nous puissions éradiquer ce phénomène-là.
Bien, restez en ligne, le temps d'accorder la parole au professeur Adela Kwanzaka, sociologue. Professeur, votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre?
Bon, c'est le travail que le ministre fait avec son équipe, avec le gouvernement. J'ai pas grand chose à dire, sauf que ce que je trouve, c'est l'implication de la population. C'est pas comment la population sera, comment ils envisagent de l'impliquer, parce que D'après nos observations, les Kuluna sont protégés aussi par la même population, notamment les parents, parce que si vous les dénoncez, les parents ou les gens du quartier qui risquent de dénoncer les Kuluna sont poursuivis, peuvent être même subir, être visités par les Kuluna et leur vie est en danger. Je ne sais pas quels sont les mécanismes d'implication de la population. Et puis l'autre réaction, c'est en rapport avec les effectifs, le nombre de Kuluna arrêtés. 150, c'est quand même, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais 150. Alors ça, ça peut être, je crois, quelques deux ou trois écuries, comme ils appellent ça, c'est-à-dire deux ou trois gangs d'une commune, parce que ces gens-là sont organisés, structurés, ils ont même, ils se forment, ils ont leur façon de se former, et 150, c'est quelque chose, mais je crois que c'est pas vraiment
suffisant.
Suffisant pour, par rapport à la ville de Kinshasa. Alors, la gouvernance locale aussi, je crois que c'est là qu'il faut insister, parce qu'il faut en ce moment-là avoir une police de proximité, une police locale qui vit avec la population, et comme ça se fait dans certains pays, eux savent que dans telle maison, par exemple, il n'y a pas une conduite convenable, etc. Cette police-là, si on l'a créée, si on l'équipait, si vraiment on triait à la volée les membres de cette police-là, ça serait quand même une bonne chose. Alors, les sanctions, le représentant du ministre a parlé du juge, mais je ne sais pas si c'est une réalité, mais j'ai lu ça dans les... Bon, bien sûr, c'est pas des réseaux sociaux, je crois. Les réseaux sociaux, on parle de restauration de la peine de mort pour les Kuluna. Je ne sais pas si on est en train d'essayer de réfléchir là-dessus, mais je crois, moi, que la solution est triple. Donc, là, il y a la solution préventive, la solution curative et, en dernier ressort, la solution répressive. C'est la seule solution. En ce moment, je reviens toujours sur ce que je disais. Il faut bien réhabiliter le ministère des Affaires sociales dans ses attributions, notamment pour la création ou la résurrection de CPS, le Centre de promotion sociale, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Jeunesse. Je crois que on peut donc parvenir à éradiquer ce phénomène. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants qui sont à la maison ne deviennent pas des Kuluna. Parce qu'il y en a qui trouvent, j'en ai vu un parce que je m'intéresse à ce phénomène, qu'on a appréhendé dans les quartiers, et qui disait que c'est la première fois que je m'engage, je vais abandonner ce travail. Donc, parce qu'on l'avait vraiment tabassé à mort, il dit non, c'est la première fois que je fais, vraiment je vais abandonner ce travail difficile. Oui, donc pour certains jeunes, c'est un travail auquel il faut s'initier, qu'il faut exercer. Donc, solution préventive, curative et prise en charge, et puis il y a la répression.
Bien, on va bientôt terminer cette première partie de l'émission. Maître Jeff Lushima, pour terminer, est-ce que la peine de mort est aussi envisagée parmi les sanctions? Maître Jeff, vous êtes là?
Je suis là. Je disais, dans l'arsenal, dans notre arsenal juridique, hein, cette peine-là, effectivement, dans le code pénal, il est là, sur papier, effectivement. Mais sous son application, son applicabilité, je crois que ça pose encore un problème, parce que dans notre constitution, on dit que le droit à la vie est sacré. Alors, il faudra qu'on arrive à mettre en symbiose un peu la constitution ainsi que le code pénal, parce qu'il faut revoir certaines dispositions. Mais bon, quant à ce que le ministre a dit, ça Ça, je n'ai pas un commentaire à faire sur ce point-là.
Merci, Maître Jeff Lutchima, chargé des suivis des audiences foraines, des procès des Kuluna. Vous avez représenté le ministre. Et merci au professeur Adla Kwanzaka, sociologue. À la prochaine.